Bonjour à tous. Je vais entrer directement dans le message d'aujourd'hui. Vous savez, rappelez-vous la première partie de ceci, qui était il y a presque un mois, un peu moins de 5 semaines, en parlant de ce que vous pouviez trouver dans la Bible pour la science. Mais je vais commencer un peu différemment aujourd'hui et vous poser une question. Êtes-vous confiant? Êtes-vous confiant? Votre question naturelle devrait être, à propos de quoi? Est-ce une confiance personnelle? Quelle confiance en ce mode de vie? Dans quelle mesure êtes-vous sûr de la voix de Dieu? Dans quelle mesure avez-vous confiance en Dieu? Avez-vous déjà lu la Bible? Repensez-vous, pensez-vous et êtes-vous en quelque sorte d'accord avec une époque où les miracles étaient si évidents? Christ a marché, des choses qu'ils ont vues, ou peut-être l'ancien Israël quand il a vu la colonne de feu et un nuage, c'est spectaculaire. Manne tombant du ciel. Ne pensez-vous jamais, oh, si j'avais vécu à cette époque, il aurait été plus facile de comprendre et de pouvoir apprécier qu'il y ait un Dieu, parce que c'est tellement plus réel. Eh bien, nous voici à l'ère moderne, des milliers d'années après les événements dont nous allons parler aujourd'hui. Nous voyons encore des miracles. Nous voyons de nombreux miracles, certaines guérisons spectaculaires, en particulier. Autres. Mais, Dieu a fait quelque chose pour notre ère moderne qui nous a permis de pouvoir avoir le même genre de confiance que vous auriez eu s'il y avait eu une colonne de feu devant vous. Parce que tout ce dont nous avons parlé dans la première partie de ceci, et nous le ferons, aujourd'hui, dans la deuxième partie, n'aurait pas pu être compris sans une technologie moderne capable de le prouver. Ainsi, Dieu a inspiré sa parole pour inclure des choses que nous ne pourrions comprendre avant les temps modernes. En effet, nous donner ce pilier de feu ou de nuage, ou la manne des moments célestes qui ne peuvent tout simplement pas être expliqués. Alors, j'ai dit cela au début de l'autre message, je vais le dire ici, que signifie ce livre pour vous? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce? Pourquoi l'avons-nous? Pourquoi sommes-nous si prudents avec nos Bibles? Nous les mettons dans nos mallettes, nos sacs à main et les remettons. Ils sont. Pouvez-vous penser à un autre livre que vous possédez dans lequel vous avez encore la boîte en carton dans laquelle vous l'avez trouvé, et remettez-le fidèlement dans la boîte en carton et la pochette à l'extérieur de celui-ci, puis mettez-le dans votre mallette. Vous riez tous parce que vous savez exactement de quoi je parle. Jusqu'à ce que ce carton soit tellement en lambeaux, vous ne pouvez même plus l'utiliser. Et vous avez probablement même collé le carton. Avec quel autre livre faisons-nous cela? Pensez-y. Allons à Ésaïe 41. Nous allons faire référence à quelques versets que nous avons vus auparavant, puis revenir et couvrir certains aspects que je n'avais tout simplement pas le temps de faire. J'ai mentionné que j'avais trop de matériel la première fois, eh bien, je le referai probablement, alors nous verrons jusqu'où nous pouvons aller aujourd'hui. Ésaïe 41, et nous ne lirons qu'un seul verset ici. Alors Dieu nous met au défi de comprendre les choses que nous pouvons comprendre. Il dit au verset 21 d'Ésaïe 41, « Présentez votre cas. Présentez vos arguments solides. » 23, « Déclarez les choses qui vont venir après, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. En effet, faites le bien ou le mal, soyez anxieux, regardez autour de nous et craignez ensemble. » Prouvez votre cas, mais c'était de faux dieux dans ces contextes et ils ne pouvaient pas. Proverbe 14. Proverbe, chapitre 14 et juste le verset 15. Un verset, le simple croit chaque mot, mais l'homme prudent regarde bien à son départ. Il considère ses pas. Donc Dieu dit de présenter le cas pour montrer ce qui est réel, ce qui est fort, ce qui est puissant, ce que Dieu dit qu'il fera, et par conséquent, nous devons envisager des étapes, ou considérer où nous allons et pas simplement tout croire. Vous devez creuser, vous devez regarder, vous devez prouver. C'est pourquoi nous disons, prouvez toute chose, retenez ce qui est bon. Alors faisons cela pour le reste du temps aujourd'hui. Continuons à prouver Dieu et sa parole à travers une poignée de sciences cachées dans la Bible. Allez voir Romains 2. Nous en obtiendrons beaucoup. Nous allons commencer par un examen. Parce que suffisamment de temps s'est écoulé, j'ai voulu recadrer cela un peu. Romains, chapitre 2 et verset 19. Le verset 19 se lit comme suit, « Et vous êtes convaincus que vous êtes vous-même un guide des aveugles, une lumière de qui sont dans les ténèbres, un instructeur des insensés, un enseignant des bébés, qui a la forme de la connaissance et de la vérité dans la loi. Une forme de celui-ci. Il y a donc tous ces gens là-bas qui pensent avoir suffisamment confiance en eux. Rappelez-vous, nous avons parlé de confiance au début. Dans quelle mesure sommes-nous confiants? qu'ils peuvent guider les aveugles, qu'ils pourraient être une lumière pour ceux qui sont des ténèbres. Ils peuvent instruire ceux qui sont insensés, ils peuvent enseigner aux bébés. Dans quelle mesure avez-vous confiance en ce que vous pourriez faire par rapport à la parole de Dieu? Donc le reste, la plupart du temps, nous ne quitterons pas l'Ancien Testament, mais je vais vous donner certaines de ces dates dont nous avons parlé la dernière fois. Donc la création a près de 4000 ans, c'était presque 4000 avant J.C. Pensez au plan de Dieu sur 6000 ans, juste un peu moins que cela. Voilà donc le récit de la création de l'Ancien Testament. Vous allez au déluge, qui est d'environ 2300 ans avant J.C. Ce sont donc de vieilles dates. Je pense que nous sommes, voyons, 20 sur 20 aujourd'hui, 2000 ans nous ramènent au temps du Christ. Et puis nous parlons de choses qui sont beaucoup, beaucoup plus en arrière. Job a vécu environ 2700 à 1500 ans avant J.C., selon le récit. Et l'Exode était juste autour de 1440 avant J.C. C'était une question importante parce que bon nombre des événements dont nous parlerons ont été écrits vers cette époque. Parce que la plupart de la Torah, ces cinq premiers livres de la Bible, ont été écrits autour de 1400 ans avant J.C. Il y a une période de temps où les événements se sont déroulés, l'Exode et le temps, mais juste autour de 1400 avant J.C. Bon, alors, 20 sur 20 moins 14 autres centaines, donc nous regardons il y a 3400 ans, la plupart de ce que nous allons examiner a été écrit. Il y a 3400 ans. Tout ce que nous touchons dans l'Ancien Testament a évidemment des milliers et des milliers d'années. Revenons donc là où nous étions, parce que le danger dans un message comme celui-ci est que vous mettez votre contexte moderne, ou que nous mettons notre contexte moderne sur les choses que nous lisons dans la Bible. Si nous faisons cela, il y a tous un petit peu de... Comme, bien sûr, nous savons que la Terre se trouve dans un champ gravitationnel, ou, bien sûr, nous savons que l'univers est en expansion. C'est le simple, faute d'un meilleur terme, deuil, nous savons ces choses. Mais nous devons revenir à, dans nos esprits, comment était-ce aux environs de 1500, 1400 avant J.C. Je vais vous rappeler certaines de ces choses. C'est une science de pointe, une technologie de pointe à cette époque, ils étaient à l'apogée de l'âge du bronze, car ils ont appris à mélanger les matériaux avec le cuivre, donc c'était un peu plus difficile. Parce qu'à l'origine, c'était juste du cuivre. C'est ce qu'ils utilisaient, et si vous avez déjà vu du cuivre, si vous avez déjà vu du cuivre pur, vous pouvez le façonner assez facilement. Ensuite, il a fallu environ 100 ans et soudain, ils ont appris à mélanger d'autres alliages, et ils avaient du fer. Fer, tu sais la chose à laquelle tu ne penses jamais parce que c'est tellement inné dans notre société. C'est dans les immeubles, c'est dans les voitures. Qu'on l'utilise même plus car ce n'est pas assez fort. Parce que tous les alliages modernes sont bien plus complexes que cela. Le fer. Et puis il a fallu des centaines d'années avant que la société commence à utiliser le fer. Nous sommes entrés dans environ les 13 centaines avant J.C. avant qu'ils ne deviennent plus répandus comme outils, pour les outils. D'accord, quelques autres inventions qui étaient toutes neuves. Ils ont découvert, en Amérique centrale, le chocolat. C'était une question importante. Ils ont juste commencé à tisser du lin pour pouvoir créer des types spécifiques de tissus. Donc, prendre du lin et en faire des tissus. D'accord, en voici une, des chaussures. Je ne plaisante pas, c'était la période où ils ont commencé à différencier un pied gauche et un pied droit pour une chaussure. Avant, c'était juste une chose simple enroulée autour d'un pied. Ils étaient les mêmes pour les deux pieds, et ils s'adaptaient suffisamment pour que cela n'ait pas d'importance. Alors ils ont commencé à porter des chaussures. D'accord, sociétés avancées. Porcelaine. La porcelaine a été développée pour la première fois en Chine, bien qu'elle n'ait quitté la Chine qu'en 1000 après J.C. Ainsi, 2500 ans plus tard, avant que le reste du monde ne voie la porcelaine. Vous en avez lu quelques-uns et vous vous dites, d'accord, est-ce vrai? Un couple d'entre eux, j'ai dû trouver plusieurs sources, car je ne croyais pas la source. J'ai pensé, non, il devait avoir cela. Il n'avait pas, jusqu'à environ 1400 ans avant J.C., des rames pour bateaux. Alors, quelqu'un comme se pencher en arrière, et donner un coup de pied? Comme. Des rames. Les brosses à cheveux, c'était une nouvelle technologie de pointe. À quoi ressemblait-il s'il n'avait pas de brosses à cheveux? Mais en fait, ils les ont d'abord utilisées pour les chevaux et quelqu'un s'est dit, Oh, vous savez quoi, mes cheveux sont en désordre, je devrais essayer cela. L'Europe, la Crète, la Grèce et les Algériens, quatre pays ou cultures, étaient alphabétisés. Comme dans, il y avait quatre pays qui savaient lire. Dans le monde entier, quatre pays. Les chars avaient été inventés, mais très peu de gens les utilisaient parce qu'ils étaient si neufs. L'agriculture, bien que courante en Europe et en Asie, commençait à peine à apparaître au Mexique, en Amérique centrale. Et un grand changement militaire s'était produit. Ils avaient inventé. Pas de poudre à canon, ni des fusils ou des armes de ce genre, ils ont commencé à changer l'arc et les flèches avec une arbalète. Une arbalète, parce qu'ils pouvaient. Ce n'était pas aussi efficace, mais ils pouvaient les tirer plus vite. C'était donc la grande chose militaire de l'époque, une arbalète. C'est maintenant, les gens l'utilisent-ils encore? Je pense que vous pouvez encore les utiliser pour chasser. Je pense qu'ils sont un peu plus fantaisistes maintenant que ceux qu'ils étaient autour de 1400 ans avant J.C. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un fait amusant. L'arbalète est devenue, était l'arme militaire dominante jusque vers le XVIe siècle, donc, dans les temps après J.C. Ainsi, ils sont devenus de mieux en mieux. Voilà donc l'environnement de l'époque. C'est l'environnement que certaines des choses que vous allez lire et entendre la dernière fois, la science du jour, c'était la technologie de pointe. N'avait jamais été vue auparavant, une arbalète. Parce que le système dominant. Parce qu'il ne faisait pas grand-chose avec les épées non plus, alors ne le fais pas, ne pense pas. Parce que tu as une sorte d'image dans ton esprit peut être l'Europe médiévale où ils ont sorti l'épée, où ils ont l'archer, parce qu'il y a un Robin des Bois, où... Non, non. Ils avaient des arcs et des flèches. C'était les seuls projectiles. Parce que, rappelez-vous, ils ont juste commencé à faire du cuivre et du fer. Il n'y avait donc pas d'épée. Peut-être que des bâtons avec des pierres au bout d'eux, ou peut-être du cuivre, maintenant, se terminent. Mais des cultures technologiques très, très simples. Ils faisaient des choses qui étaient incroyables parce qu'elles n'avaient pas été faites, mais toujours des cultures très simples. La dernière fois, j'ai intentionnellement commencé en grand. Rappelez-vous, nous avons parlé de l'univers, de la façon dont la Terre était positionnée, des systèmes solaires, et nous avons commencé à creuser vers la Terre. Nous nous sommes rapprochés de plus en plus de notre planète, jusqu'à ce que nous ayons finalement, très rapidement, couvert un animal que nous allons revoir, un insecte. Je viens de frapper trop vite et je vous laisse entrer plus en détail. Mais d'abord, permettez-moi de citer à quel point l'humanité peut être éloignée. Voici un article, intitulé « L'immobilier quantique est soit vraiment bizarre, soit il s'effondre ». Le sous-titre est « Soit l'état quantique doit s'effondrer au niveau macroscopique, soit la réalité n'est pas réelle ». Donc, un peu de science, mais laissez-moi vous le lire. Parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est « Nous sommes un peu mal à l'aise qu'il semble qu'il se passe quelque chose de plus grand, mais nous ne voulons pas l'admettre ». Alors, quelle est cette réalité de toute façon? Sous-titre, continuant, cela entre un peu ici. Il suppose qu'il n'y a pas de superdéterminisme, nous faisons des choix libres. Si nous rejetons la convivialité locale, certains de ces termes, alors nous devons prendre des décisions. Nous devons accepter certaines des possibilités suivantes, les mesures d'un observateur ne sont pas forcément réelles, la réalité n'est pas locale, le superdéterminisme est réel, nous ne prenons pas vraiment de décisions, nous pouvons prendre des décisions, ou la mécanique quantique cesse de fonctionner quelque part avant que les observateurs macroscopiques ne s'impliquent. Ok, qu'est-ce que je suis, de quoi tu parles? Donnez-moi une seconde, ici. C'est là que cela devient un peu plus que de la science engloutie. Cependant, le point le plus important est que la réalité peut dépendre de l'effacement des effets quantiques, ou de leur disparition, avant qu'ils deviennent trop importants. Sinon, la réalité commence à s'effondrer. Les alternatives sont que nous avons beaucoup moins de libre choix que nous ne le pensons, ce qui est de la science parlée, car il y a quelque chose qui guide les choses beaucoup plus que nous ne le pensons, la virgule, ce qui est un peu désagréable. Au-delà de cela, nous devons rejeter la localité ou la causalité, qui pourrait être encore plus douloureuse pour les physiciens. Nous continuons donc à découvrir des choses qui commencent à prouver qu'il doit y avoir un Dieu. Mais il est un peu difficile, comme ils l'ont appelé, de le déterminer. Voici une autre science amusante, ou celle de l'univers, avant de redescendre sur notre planète. Pensez à l'univers. Il doit être fini. Comment savons-nous cela? Parce que Dieu définit clairement qu'il y a trois cieux. Vous avez le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Si vous avez le premier ciel, qui est là où nous sommes, ou le ciel, cela a un aspect fini. Vous avez le deuxième ciel, qui serait, se connecte au premier ciel, et ensuite, la Bible définit un troisième ciel. De toute évidence, le paradis où est Dieu. Cela vous fait vous demander, comment le bord de l'univers se connecte-t-il au royaume spirituel pour lui permettre d'être un troisième ciel, mais définirait aussi l'univers en lui-même, comme étant ce deuxième ciel, étant fini. Ce que nous comprenons aujourd'hui comme fini. Mais encore une fois, il y a 1500 ans, lorsque certains de ces termes étaient utilisés. Bon, passons à Proverbe 6. Rappelons-nous l'époque où ces mots ont été écrits. Proverbe, chapitre 6. Proverbe, chapitre 6 et nous lirons le verset 6. Le verset 6 dit, « Va à la fourmi, paresseux, considérez ses voies, et soyez sages, qui, n'ayant ni guide, ni surveillant, ni dirigeant, lui fournit de la viande en été et ramasse sa nourriture lors de la moisson. » J'ai rapidement mentionné qu'il s'agissait de travailleuses, pour les fourmis, mais je voulais faire un peu plus de creusage. Je voulais passer un peu plus de temps, car est-ce juste une coïncidence que, dans cette société patriarcale, on dise « elle ». J'ai donc voulu chercher l'hébreu. « Elle » n'est pas techniquement là, mais c'est souvent le cas en hébreu. Il faut regarder le mot qu'il modifie pour pouvoir comprendre s'il est masculin ou féminin. Ainsi, le mot est « voix », dans le verset 6, « viande », au verset 8, et « nourriture », au verset 8. Chacun de ces mots modifie, maintes et maintes fois dans la Bible, un objet masculin ou neutre. Donc, sa nourriture, ou sa ou la nourriture. Dans ce cas précis, ses manières et sa nourriture, et ce tera, est une troisième personne féminine, singulière. Elle a été intentionnellement, par Dieu, rendue féminine elle. Alors, ajoutez un peu plus à cela. À partir d'un site web de fourmis, parce qu'il y a des sites web de fourmis. Il y en a beaucoup lorsque vous recherchez ce genre de choses. Mais, citez, presque toutes les fourmis que vous voyez dans la nature sont des femelles. Les fourmis mâles, ou bourdons, ne font aucun travail dans la colonie et elles ne ressemblent pas à des fourmis, plutôt à des guêpes. Ils ne vivent que quelques mois pendant les saisons de vol nuptial. Leur seul travail est de féconder une reine, ou une princesse pour devenir une reine. Je n'ai pas réalisé que les fourmis étaient différenciées, mais après quoi elles meurent. Pas une bonne vie à vivre si vous êtes un mâle fourmi. Ainsi, les fourmis mâles se reproduisent, les aident à se reproduire et à mourir. Donc toutes les fourmis que vous voyez, ce qui est plus que ce que j'ai même compris, sont des femelles. En fait, il existe des fourmis qui sont en fait asexuées, mais femelles, et peuvent se reproduire par clonage. Donc le mâle n'est même pas dans le mix. Mesdames, arrêtez de sourire. Mais pensez-y. Dieu a spécifiquement dit « elle ». Comment aurait-il su cela? Ils ne ressemblent même pas à des fourmis. Comment aurait-il su qu'ils étaient des fourmis mâles? Comment aurait-il connu la différence? C'est juste un accident que Dieu a inspiré la Bible à dire « elle ». D'accord, c'est le dernier, avant de commencer à vraiment. Nous allons devenir petits aujourd'hui. Nous allons examiner des choses que vous n'auriez pas pu voir il y a des milliers d'années parce que vous ne pouviez pas les voir il y a à peine des centaines d'années avant que nous ayons des microscopes ou la médecine moderne, ou la technologie moderne. Nous allons examiner quelques principes de base de la santé, et passer par autant de preuves que possible avant que je ne manque de temps aujourd'hui. Je vais probablement en parler un peu aussi. Alors allez à Genèse 2. Genèse, chapitre 2 et nous lirons le verset 7. Encore une fois, beaucoup de ces versets, vous les avez relus maintes et maintes fois, mais votre parti pris moderne ne vous rend pas compte, ne me rend pas compte à quel point il est unique de pouvoir mettre certains de ces faits ici. Le verset 7 se lit comme suit, « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu une âme vivante. » Il était vivant. Alors, qu'est-ce qui est remarquable à ce sujet? Eh bien, Dieu a formé l'homme de la poussière du sol. C'est la couche supérieure du sol. C'est la partie premium du sol. Ce n'est pas au fond. Ce n'est pas l'argile, parce que l'argile en aurait moins. Ce n'est que récemment que nous avons appris que nous sommes composés de 28 éléments de base et traces qui se trouvent dans la poussière, la couche supérieure du sol. Pourquoi dire poussière de la terre au lieu de dire simplement que l'homme a été formé de la terre ou de la terre? Parce que nous avons été formés à partir de la poussière. C'est pourquoi nous avons ces 28 éléments, oligo-éléments, éléments et éléments de base, en nous. Et curieusement, tout ce que l'on ne trouve que sur Terre, pas sur d'autres planètes que nous avons pu. Ou la Lune, ou ce que nous avons pu découvrir sur Mars. C'est seulement ici. Encore une fois, coïncidence ou parole inspirée de Dieu. Proverbe 17. J'ai pu entrer dans certains des plus légers, alors nous allons en examiner quelques-uns vraiment étonnants, et nous examinerons certains, j'appellerai, des parallèles intéressants et intéressants que vous pouvez lire sont une inspiration fascinante. Si vous n'aviez pas eu la première partie pour construire cette fondation, cela ne vous aurait peut-être pas frappé aussi fort, mais nous aurons certainement les deux. Certains sont incroyables. Proverbe 17 et verset 22. Le verset 22 dit, « Un cœur joyeux fait du bien comme un médicament, mais un esprit brisé sèche les os. » Bon, retournez au 18, chapitre 18 et ensuite nous lirons le verset 14 et de 18, « L'esprit d'un homme soutiendra son infirmité, mais un esprit blessé, pense esprit brisé, qui peut supporter ? Qui peut gérer ? Parce que cela vous tire vers le bas. Parce que cela sèche les os. » Eh bien, la science nous a montré que le rire réduit le stress. Il libère des hormones de stress, il libère des endorphines. Et cela rendrait le cœur joyeux de présenter tous les éléments qui permettent à votre système immunitaire de fonctionner plus efficacement. Lorsque ceux-ci sont libérés dans votre système immunitaire peut être renforcé. Lorsque vous êtes déprimé ou absent, ou que vous avez le cœur brisé, cela déchirera votre système immunitaire, et sera donc moins efficace. Et qu'est-ce que cela fait? Vous ne pouvez pas combattre la maladie. Vous tombez malade. C'est comme un stress intense. Si vous avez un stress intense, si vous perdez quelqu'un qui était très proche de vous. Vous avez entendu le terme « syndrome du cœur brisé ». Cela peut littéralement simuler ce qui se passe lors d'une crise cardiaque lorsque vous traversez quelque chose d'aussi difficile. Un peu sèche les os, n'est-ce pas? Un esprit brisé. D'accord, ce ne sont que des problèmes de santé de base. Proverbe 15. Je vais vous lire une citation qui pourrait vous être utile sur ce dernier point, pendant que vous y allez. Les chercheurs ont étudié des personnes sans problème médical antérieur qui présentaient des symptômes de cardiomyopathie de stress, notamment des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires, une pression artérielle basse et même une insuffisance cardiaque, pour donner suite à un incident stressant intense. Rien d'autre qui cloche avec eux, leur cœur était toujours bien. Mais ce sont les conditions parce qu'ils avaient un esprit brisé. Donc, Dieu dit qu'être abattu peut vous affecter, et maintenant nous comprenons. Proverbe 15, vous y êtes probablement, verset 30. Ceci est un autre de ces intéressants, la lumière des yeux réjouit le cœur, et un bon rapport rend les os gras. Donc cela ne veut pas dire que la lumière dans les yeux réjouit le cœur, mais parle de la lumière des yeux. Vous pouvez rechercher les mots. Cela peut aussi signifier que la lumière dans votre œil réjouit le cœur. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi la lumière pénétrant dans les yeux éliminerait-elle la tristesse, ou réjouirait-elle le cœur? Eh bien, pensez à l'hiver. Lorsque vous arrêtez de sortir au soleil, et que vous arrêtez de recevoir toute la chaleur, vous arrêtez de recevoir toute cette vitamine D, toute cette lumière du soleil qui entre en vous, à tel point qu'ils ont une maladie appelée trouble de la dépression saisonnière, ou TS, ou quoi que ce soit en particulier, est appelé. Et que vous disent-ils de faire? Faites briller des lumières à spectre complet sur vous-même, car cela vous aidera à vous remonter le moral, ou peut-être que cela réjouira le cœur. Juste simple, les petits ici. Encore une fois, comme nous l'avons fait la dernière fois, et ils grossissent. Genèse 17. Encore une fois, pourquoi Dieu aurait-il formulé ceci de la manière dont il les a inspirés à être formulés si c'était juste un hasard? C'était une formulation fortuite qui, par confirmation de notre part, que nous avons pu, à l'ère moderne, lire dans un verset pour pouvoir lui trouver un sens, et il se trouve que c'est le cas. Ok, que diriez-vous de celui-ci? Parce que vous ne pouvez pas lire celui-ci. Genèse 17 et verset 11. Et tu circonciras la chair de ton prépuce, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. Verset 12. Et celui qui est âgé de 8 jours sera circoncis parmi vous, chaque enfant de votre génération, celui qui est né dans la maison, ou acheté avec de l'argent à un étranger, qui n'est pas de votre semence. Le 8e jour, vous devez être circoncis. Vous savez cela dans l'Église. Vous avez probablement déjà entendu cela, mais c'est parce que quelque chose se passe dans votre sang le 8e jour. Le. C'est une enzyme ou une protéine. La prothrombine atteint des niveaux bien supérieurs à ce qui est normal dans votre corps le 8e jour. Donc, il continue à monter, et donc, disons que c'est un niveau à 100% que votre corps aurait, il continue à monter et il monte en flèche le 8e jour avant qu'il ne commence à redescendre et à se reposer à sa normale niveau. Eh bien, quelle est cette protéine? Pourquoi cette protéine est-elle importante? Eh bien, c'est la protéine de coagulation sanguine. C'est l'un des nombreux, mais il a pour fonction principale de coaguler le sang. Et si vous circoncisez quelqu'un, vous voudriez qu'il arrête de saigner. Alors, est-ce que Dieu a choisi au hasard le 8e jour, ou a-t-il inspiré la parole de Dieu dans la Genèse, puis a-t-il également construit nos corps pour être conçus pour cela? Voici un amusant poulet et œuf. Dieu a-t-il créé nos corps pour qu'ils fassent des pics le 8e jour, puis a-t-il inspiré la parole de Dieu à le faire, ou était-ce l'inverse? Est-ce qu'il a décidé? Parce qu'il aurait pu choisir le 3e jour, le 5e jour ou le 27e jour, mais pourtant il dit d'attendre jusqu'au 8e jour. Donc, c'est incroyable, parce qu'il contrôlait les deux, il nous a créés et il a inspiré la Bible. C'est donc une de ces questions à se poser, dans le royaume. En parlant de bébé, allez à Genèse 3. Remontez quelques chapitres. Genèse, chapitre 3, verset 15. Le verset 15 dit, « Et je mettrai inimitié entre vous et la femme, et entre vous, semence et, leur, semence, il te meurtrira la tête et tu lui blesseras le talon. » D'accord, nous savons que c'est une déclaration prophétique, mais que signifie entre votre semence et sa semence? Vous pensez, d'accord, est-ce que ce sont des enfants et des générations plus tard? Il y a beaucoup de mots qui sont traduits par semence qui peuvent signifier progéniture. Ce n'est pas l'un d'eux. Cela signifie littéralement semence. D'accord, pourquoi est-ce unique? Bien sûr, les hommes, l'œuf et le sperme, vous avez donc les deux ensembles d'équations pour faire un enfant. Ainsi, les hommes ont leur semence et les femmes ont leur semence. Pourquoi est-ce un gros problème? Bien sûr, ils se réunissent, la contraception. Ou la contraception. Ils se réunissent et vous pouvez avoir un bébé, avec la contraception, vous pouvez l'éviter. Alors pourquoi est-ce si grave? Eh bien, ce n'est qu'il y a vraiment quelques centaines d'années qu'ils ont compris que les femmes portaient des œufs. La plupart, à travers le temps, une femme a été considérée comme un simple incubateur pour sa semence. Et c'est ainsi que le bébé s'est développé. C'était tout, c'était de l'homme et la femme le tenait et le faisait cuire, si vous voulez. Donc Dieu, ici, dans sa parole, a spécifiquement dit, « Non, non, il y en a une de chacun de qui s'assemble pour faire les deux semences différentes. » Vous pouvez dire, « D'accord, c'est-à-dire, lisons-nous un peu cela. » D'accord, vous pouvez le prendre de cette façon. Examinons quelques lois d'hygiène, qui s'adaptent au temps moderne dans lesquels nous vivons. Nous pensons beaucoup à l'hygiène ces jours-ci, n'est-ce pas? Quelles particules expirons-nous? Quelle est notre température? Ne pas avoir la fièvre de fête. Tous les. Nos mains lavées, nous utilisons des désinfectants. Allez au Lévitique 15. Lévitique 15. La question est, dans tout cela, pourquoi? Pourquoi Dieu le dirait-il ainsi? Chapitre 15 et verset 13. 13 lit, et quand il a un problème et nettoyé de son problème, alors il comptera pour lui-même 7 jours pour sa purification, et lavera ses vêtements, et lavera sa chair dans l'eau courante, et il sera pur. L'eau courante, pourquoi est-ce un gros problème? Eh bien, c'est un gros problème parce que personne n'a rien compris aux germes jusqu'à l'ère moderne. Littéralement, dans les 1800, ils ont pensé qu'ils devraient se mouiller les mains. Donc vous savez ce qu'ils ont fait, si vous étiez médecin dans les 1800, il y avait un grand bac d'eau à l'extérieur des salles d'opération, à l'extérieur de la morgue, à l'extérieur où ils avaient des bébés, et tous les médecins. Peu importe si vous étiez vous faisiez simplement une autopsie ou vous étiez en train d'accoucher, vous êtes tous allés à l'eau, À l'eau plate, vous vous êtes lavé les mains dans cette eau, les avez séchées avec la serviette que tout le monde utilisait, puis avez fait ce que vous faisiez. C'était soit cette autopsie, soit vous étiez en train d'accoucher. Donc, ceci est de l'Encyclopédie Britannica. 1845. Il documente qu'en 1845, un médecin à Vienne était horrifié par le terrible taux de mortalité des femmes qui accouchaient dans les hôpitaux. Pas moins de 30% sont morts après avoir accouché. 1845. 1500 avant J.C., Dieu a dit d'utiliser l'eau courante. Le médecin a noté, il a noté que les médecins examinaient les patients décédés, ont fait une autopsie, puis se rendaient directement au service suivant, et examineraient les femmes enceintes. C'était une pratique normale, parce que personne n'avait la moindre idée qu'il y avait des maladies microscopiques. Le concept n'était pas là. Il a commencé à insister sur la présence de maladies microscopiques inconnues. Sommelway a insisté pour que les médecins se lavent les mains à l'eau courante, et le taux de mortalité est tombé à 2%. 30% à 2%, 1845. Et pourtant, Dieu a dit, non, 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 non. Vous devez vous laver les mains sous l'eau courante. C'est juste intéressant. C'est pourquoi nous le faisons aujourd'hui, car la science a pu voir ce qui était entre vos mains. Une grande partie de la raison pour laquelle vous le faites. Le savon est important. Tout cela fait partie du processus de nettoyage, mais une grande partie de ce qui se passe est la suivante. Avec de l'eau qui coule sur vos mains, les rinçant parce que vous brisez tout cela, toutes les bactéries et disparaissent, et cela continue de couler sur vos mains, et c'est l'eau qui coule sur vos mains. Le savon le décompose, aide à tout décomposer, bien sûr, mais c'est l'eau courante qui fait la grande différence. Tu trempes ta main dans de l'eau sale. Si tu as un enfant, regarde la baignoire après le bain, et dis-moi si l'eau plate est une bonne chose ou non. Notre son s'est maintenant fixé sur la prise de douche, ce qui est une chose merveilleuse pour votre emploi du temps. Il est dedans, il est sorti. Mais, donc nous ne faisons qu'appliquer les lois d'hygiène, c'est tout ce que nous faisons dans le ménage. Donc vous avez, de 30% à 2%. D'accord, passons à Numbers 19, ajoutons un peu plus à celui-ci. Comment ont-ils su utiliser l'eau courante? Cela voudrait dire que vous auriez dû en avoir une source. Donc, à moins qu'ils ne vécussent près d'un ruisseau, ils devaient l'amener quelque part et ensuite le verser. Il est contre-intuitif de vouloir pouvoir déverser de l'eau pour pouvoir créer de l'eau courante. Il serait donc descendu dans un ruisseau. Donc nombre 19, vous y allez. C'est juste une coïncidence, non? Chapitre 19, verset 11. Celui qui touchera le cadavre de n'importe quel homme sera impur 7 jours. Il se purifiera, verset 12, avec lui le 3e jour, et le 7e jour il sera pur, mais s'il ne se purifie pas le 3e jour, alors le 7e jour il ne sera pas pur. Processus de purification, la génisse, les cendres et elle le mélange. Il y a en fait des propriétés dans le et il parle plus tard de l'hysope, qui est antibactérien. Des choses qu'il n'aurait tout simplement pas su. Et le verset 21, continuant, et ce sera pour eux une loi perpétuelle sur la façon dont vous traitez les cadavres, comment vous devez rester propre, et comment vous devez faire ces nettoyages et purifications spécifiques. Dans le rituel, le sacrifice et aussi le nettoyage physique. Celui qui asperge l'eau de séparation lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de séparation sera impur jusqu'au soir. Donc, essentiellement, vous avez donc l'eau de séparation, qui vous nettoie, et puis, Dieu dit non, donnez-la jusqu'au soir. Donc, c'est comme si vous alliez prendre une douche et vous laver, et Dieu dit, non, ne vous considérez pas propre pendant quelques heures de plus, laissez-le sécher peut-être, séchez simplement tout ce qui peut être humide. Ou pourrait grandir sur vous. Intéressant, avec le désinfectant pour les mains, c'est le processus de séchage. C'est pourquoi si vous ajoutez beaucoup de désinfectant pour les mains, vous savez, et vos mains sont toutes mouillées, et vous vous dites, d'accord, j'ai terminé. Vous venez de déplacer les bactéries. C'est le processus de dessèchement qui tue les bactéries. C'est pourquoi vous continuez à vous frotter les mains jusqu'à ce qu'elles le soient, elles grincent. C'est la partie qui aide. Comme toute substance, quand elle sèche, c'est à ce moment qu'elle se décompose. L'alcool fait un meilleur travail. Alors Dieu dit, non, attendez jusqu'au soir, laissez tout sécher complètement avant d'être considéré comme propre. Savez-vous que ce n'était vraiment pas compris jusqu'au temps très moderne que lorsque vous mourrez, ou que quelque chose meurt, Il commence à se décomposer. Et ce processus de décomposition introduit des bactéries qui facilitent le processus, mais également des bactéries qui peuvent vous rendre très, très malade. Alors, que dit Dieu? Non, 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 soyez très prudent avec un cadavre, soyez prudent avec n'importe quelle carcasse, car quand elle est morte, il sait, il nous a créés, elle commence à se décomposer, elle commence à créer des bactéries à l'intérieur. Il commence à avoir le potentiel de vous rendre très malade. Personne ne le savait alors, car ce n'est pas la pratique courante. Les gens mouraient tout simplement, et il y avait des cérémonies d'enterrement de différentes cultures, mais pas de la manière de propreté que Dieu a inspirée aux Israélites. C'est très, très précis sur la façon dont ils l'ont géré. Presque tout le reste était plus basé sur une sorte de rituel, mais Dieu a dit, non, non. La façon dont vous manipulez ces carcasses mortes, qu'il s'agisse de personnes ou d'animaux, est très, très précise, car il peut y avoir des conséquences qui peuvent vous rendre malade. Lévitique 11. Il suffit de parcourir les livres de la Torah ici, les cinq premiers livres. Encore une fois, 1400 avant J.C., donc, il y a 3400 ans. Du cuivre, du fer, du verre, c'était la technologie de l'époque, des chaussures, et pourtant nous parlons de bactéries microscopiques qui pourraient vous rendre malade. Chapitre 11. Si vous pensiez que c'était juste des gens, voici comment, c'est pourquoi Dieu était très, très prudent et précis. Encore une fois, vous ne pouviez pas le savoir, et ce n'était pas la pratique de l'époque. Les gens n'y ont jamais pensé. Verset 33, chapitre 11. Et tout vase de terre, dans lequel l'un de tombe, quelque chose de mort, une carcasse, tout ce qu'il contient sera impur peu importe ce que c'est, si quelque chose de mort tombe, c'est impur. Et vous le briserez. Détruisez-le, car vous pourriez avoir des bactéries qui s'y développent. Toute la viande, de toute viande qui peut être mangée, celle sur laquelle une telle eau vient sera impure. Donc, si vous avez quelque chose de mort qui tombe dans l'eau, Dieu dit de ne même pas l'utiliser de la viande propre, car cette viande sera puis devenue impure. Pensez aux pratiques d'assainissement d'aujourd'hui, à quel point nous sommes prudents dans la société moderne, et que nous avons encore des épidémies de salmonelle. Mais Dieu, très précisément, a inspiré ses instructions. Continuant ici, verset 35. Et tout ce sur quoi tombera une partie de leur cadavre sera impur, n'importe quelle partie, que ce soit un four ou des cuisinières pour casserole, elles seront brisées, car elles sont impures et vous seront impurs. Dieu a compris que si des maladies éclataient, elles pouvaient se propager. Alors il a dit, la façon dont nous faisons cela est de l'arrêter avant qu'il ne puisse se propager. Verset 36. Néanmoins une fontaine ou une fosse, dans laquelle il y a beaucoup d'eau, sera propre, mais ce qui touchera leur cadavre sera impur. Avez-vous remarqué la différenciation? Dieu a dit que s'il y a une grande masse d'eau, alors ne vous inquiétez pas, car, nous comprenons à l'ère moderne, que les bactéries seraient diffusées dans cette grande masse d'eau, et il y aurait si peu de choses à nous affecter, cela peut être un problème. Mais si c'est un petit, alors vous ne le faites pas. Ou bien, une fontaine, dans ce cas également, montre également de l'eau fraîche qui sort continuellement. Comment l'a-t-il su? Comment Moïse a-t-il écrit cela? De toute évidence, nous avons une perspective que la plupart n'ont pas, mais rappelez-vous, tout ce qui était enseigné à cette époque, tout ce qui était introduit était radicalement différent de ce qui était compris il y a 3500, 3000, 4000 ans. Ces mots n'étaient pas quelque chose qui pouvait être comparé à d'autres écrits et ils rassemblaient des morceaux de différentes cultures pour arriver à ce que nous avons dans la Bible. Des choses ont été introduites dans la Bible qui étaient complètement en dehors de ce que quiconque savait. Totalement nouveau, totalement unique et complètement prouvable avec la science moderne. Frères et sœurs, la science moderne nous donne notre pilier dans le nuage, des piliers de feu, la manne du ciel, des moments. Parce que cela nous permet de voir ce que Dieu a fait il y a des milliers d'années, et de le prouver aujourd'hui. Parce que nous ne pourrions pas, sans la technologie moderne, pouvoir le voir. Donc, Dieu interdit de boire dans des récipients ou de l'eau stagnante, parce que cela pourrait être contaminé, mais les gens l'ont fait tout le temps, en dehors de la nation d'Israël, puis sont morts. Ce n'est qu'il y a environ 100 ans que nous avons compris que la typhoïde et le choléra pouvaient simplement être assis là dans l'eau avec quelque chose de mort. D'accord, ce sont des lois d'hygiène. Voyons quelques autres ici. Loi de quarantaine. Lévitique 13, sautant en arrière ou en avant de quelques chapitres. La dernière fois, nous avons fait un zoom arrière sur l'univers, Maintenant nous zoomons sur les bactéries microscopiques et les maladies, et toutes les choses amusantes qui terrifient les monstres propres, et les germaphobes. Lévitique 13 et verset 46. Le verset 46 dit, « Tous les jours où la plaie sera en lui, il sera souillé. » Parlant de la lèpre, « Il est impur, il habitera seul, sans le camp, son habitation sera. » Quand quelqu'un tombe avec quelque chose, une maladie. Dans ce cas, en se concentrant sur la lèpre. Vous le mettez hors du camp. D'accord, cela a du sang, bien sûr, c'est contagieux. Cela n'a de sang que parce que nous comprenons peut-être contagieux, à notre époque moderne. Il n'y avait aucune idée que les maladies pouvaient se propager d'une autre manière. Pendant des années, et nous verrons cela plus tard, ils ont pensé que vous respiriez de la mauvaise vapeur, et c'est ainsi que vous êtes tombé malade. Vous pouvez le voir d'une certaine manière, mais ils pensaient que c'était dans votre sang. Vous inspirez et de mauvaises vapeurs pénètrent dans votre sang. Vous pourriez le respirer dans vos poumons et dans votre estomac, tout irait bien, mais si de la vapeur pénétrait dans votre sang, c'est pourquoi vous êtes tombé malade. Mais c'était des milliers d'années plus tard. Alors Dieu dit que si quelqu'un a la lèpre, mettez-le hors du camp parce qu'il est contagieux. C'est au XVIIe siècle que nous avons compris qu'il fallait mettre en quarantaine la maladie. Arrêtez-vous et laissez cela pénétrer un instant. Vous parlez d'il y a quelques centaines d'années, nous avons enfin compris qu'il fallait mettre en quarantaine lorsque des personnes ou des animaux sont malades. Et ici dans la parole de Dieu, encore une fois, il y a plus de 3000 ans, il a dit la quarantaine. Personne ne l'a fait à part Israël. Pas fait, des centaines d'années. Nous verrons encore plus. Des milliers d'années. L'encyclopédie de l'histoire médicale, à quel point est-ce unique ? L'idée de contagion était étrangère à la tradition médicale classique, et ne trouvait pas sa place dans les volumineux écrits hippocratiques. Donc, la première partie d'il y a quelques milliers d'années, aucune partie des documents de base qui définissent la médecine moderne. L'Ancien Testament, cependant, est une riche source de sentiments contagionnistes, en particulier en ce qui concerne la lèpre et les maladies vénériennes, 1985, pages 77 à 78. Des milliers d'années auparavant, la Bible dit clairement que les choses peuvent être contagieuses, et la base de la médecine moderne ne l'a même pas comprise lorsque les premières choses ont été écrites à ce sujet. Coïncidence ? Une autre citation, tirée de l'histoire de la médecine, pendant la peste noire dévastatrice du XIVe siècle, peste bubonique, les patients malades ou décédés étaient gardés dans la même pièce que le reste de la famille. Alors ils sont simplement morts. Vous ne faisiez pas beaucoup de corps à l'époque, parce que vous n'y pensiez pas. Les gens se demandaient souvent pourquoi la maladie affectait autant de personnes à la fois. Ils ont attribué ces épidémies au mauvais air, c'était de l'air mauvais avec un cadavre assis à côté de vous, mais juste l'air, en général, était mauvais. Ou de mauvais esprit. Cependant, une attention particulière aux commandements médicaux de Dieu, comme l'a révélé le Lévitique, encore une fois, le livre d'histoire de la médecine, nous lisons à partir d'ici. Une attention particulière aux commandements médicaux de Dieu, comme révélé dans le Lévitique, aurait sauvé des millions de vies. L'importance écrasante de la loi médicale biblique, les lois contre la lèpre dans le Lévitique 13 peuvent être considérées comme le premier modèle de législation sanitaire. Le premier modèle, il y a des milliers d'années, avant que la peste bubonique ne frappe l'Europe. Frères et sœurs, c'est le Dieu que nous servons. Il a créé nos corps. Il a créé l'univers jusqu'aux plus petites bactéries, et il sait comment les gérer. Parce qu'il les aurait, il savait, il a créé cet équilibre délicat, l'écosystème dans le monde, et comment il survit. Vous avez donc besoin des bactéries. Vous avez besoin de tous les organismes pour équilibrer tout le système, alors bien sûr, il saurait comment nous devrions interagir avec lui pour être en mesure de nous maintenir en bonne santé, pour pouvoir l'annuler en devenant incontrôlable et en ayant des choses comme la peste bubonique. Reprenez un verset dans ce même chapitre, Lévitique 13, verset 45. C'est amusant ici, et le lépreux en qui est la peste, ses vêtements seront déchirés, et sa tête nue, et il mettra une couverture sur sa lèvre supérieure, et criera, impur, impur. Distance sociale. Distance sociale. Vous riez, mais c'est exactement ce que cela signifie, gardez vos distances, je suis lépreux. Je suis impur. Je ne veux pas tousser sur toi alors je vais me couvrir la bouche. Ils ne savaient pas que les germes et les bactéries pouvaient se propager sous forme de particules dans l'air, car ils n'avaient même pas compris, à l'époque, que les choses étaient contagieuses. Pourtant, Dieu dit, couvrez votre bouche. Je ne sais pas, peut-être que les couvertures faciales sont une bonne chose. Mais c'est pourquoi on nous dit, apprenez aux petits-enfants à tousser dans votre manche, vous ne voulez pas propager vos germes. Nous, c'est une seconde nature pour nous à cause de ce que nous comprenons, mais c'était complètement étranger il y a 3000 ans. C'était complètement étranger il y a 1000 ans ou même 500 ans, mais pourtant, nous y sommes, Dieu dit, couvrez-vous la bouche, éloignez-vous socialement quand vous êtes malade, sortez du camp et assurez-vous que tout est nettoyé. Mettez en quarantaine ceux qui sont malades. Encore une fois, je demande, est-ce juste un choix chanceux de mots que Moïse a mis sur papier, ou sur ses rouleaux, qui correspondait à la façon dont Dieu a conçu notre corps pour qu'il puisse fonctionner et les microbes et divers organismes qui existent autour de nous. Juste arrivé pour bien faire les choses. Bon, regardons les lois sur l'assainissement. Deutéronome 23. Remontons le temps, tout en vous laissant aller là-bas. Deutéronome 23. Il est 18h46. Nous sommes à Londres. Londres, Angleterre. Près de 3 millions de personnes vivaient à Londres dans 1846. Sa population doublait comme tous les plusieurs années. C'était incroyable, à quelle vitesse il grandissait. C'était le centre, essentiellement, du monde à l'époque. 3 millions de personnes. Et puis, il y a eu une épidémie de choléra. 16 000 personnes sont mortes très, très vite et c'était hors de contrôle pendant un certain temps plus tard. Ce qu'ils ne comprenaient pas vraiment à l'époque, et cela nous semble très étranger. Ils avaient des toilettes, ils avaient des installations. La plupart des maisons, vous avez des tours, vous aviez des immeubles de 2 et 3 étages bordant les rues. Les chevaux, ils tapotaient simplement le fumier pour les chevaux, juste pour tapoter la route. Et vous pensez, ouf, vraiment? Eh bien, je suppose que c'est du fumier de cheval, c'est du compost, non? Mais ce n'est pas la seule chose qu'ils ont faite, parce qu'ils n'avaient pas réellement de toilette avec chasse d'eau, ils avaient juste une sorte de bidon, dans n'importe quelle installation où ils le feraient. Et donc, ils prendraient ces déchets, si vous voulez, marchaient à leur fenêtre et le jetaient dans la rue. 3 millions de personnes feraient cela. Laissez cette grossièreté pénétrer. Il y aurait des pieds de fumier dans la rue, car il y était simplement jeté. Vous pensez, d'accord. Pas étonnant qu'ils aient eu des épidémies de choléra. C'est fou. Mais presque tout le monde pensait en fait, vous savez quoi, ce n'est pas à cause de cela, c'est à cause du mauvais air ou des mauvais esprits qui causent le problème, en 1846. Et qu'a dit Dieu dans Deutéronome 23? Regardez le verset 12. Tu auras une place aussi sans le camp, espérons-le, pas à côté des lépreux, ou tu iras à l'étranger, voilà, c'est une écriture presque politiquement correcte. J'adore cela, la façon dont Dieu décrit cela. Et vous aurez une pagaie sur votre arme, vous avez donc cette pagaie que vous portez avec vous, et ce sera, quand vous vous détendrez à l'étranger, vous creuserez avec elle, et vous retournerez et couvrirez ce qui vient de vous d'accord, donc vous la mettez essentiellement un trou et un couvercle. Car l'Éternel, votre Dieu, marche au milieu de votre camp, pour vous délivrer et livrer vos ennemis devant vous. Et par conséquent, votre camp devrait être saint, afin qu'il ne voie rien d'impur en vous et qu'il se détourne de vous. Donc, Dieu l'encadre avec, vous allez m'irriter, si vous ne suivez pas cette loi d'assainissement. Donc, fondamentalement, Dieu a très, très, placé la barre haute. Parce qu'il aurait pu dire simplement faire ceci, et les gens peuvent ou non. Mais il l'attacha à lui-même, parce que Dieu, bien sûr, comprenait à quel point ce serait dangereux si les eaux usées étaient laissées dans le camp. Pensez à l'épidémie de choléra. Alors Dieu a dit, encore une fois, il y a plus de 3000 ans, vous devez enlever les eaux usées de l'endroit où vous êtes, sans le camp, et pas seulement cela, les enterrer. Parce que ce qui se passerait, d'accord, s'il n'y avait que des égouts ouverts, c'est essentiellement ce que vous aviez à Londres. Vous en étiez plus proche, mais c'était un égout à ciel ouvert. Et puis les gens tombaient malades. Remontez un peu plus loin vers les 1350. Nous regardons donc toujours, par rapport à l'époque où le Deutéronome a été écrit, les temps modernes. Il y a eu également une autre épidémie de peste bubonique. On a estimé que les Juifs, lors de celui-ci à 1350, c'est aussi en Europe, sont morts à raison de la moitié de tout le monde. 50% de décès en moins dans les communautés juives que tout le monde, car ils ont suivi toutes les choses dont nous avons parlé jusqu'à présent. Ils ont enlevé leurs ordures à l'extérieur du camp, ils nettoyaient les choses à l'eau courante, ils se sont lavé les mains. Quand quelqu'un était malade, ils le mettaient en quarantaine. C'était si efficace et si radicalement différent des gens autour d'eux, les Juifs ont été blâmés pour certaines des plaies. Parce que, évidemment, ils sont derrière. Les 50% qui sont morts, toujours là, même s'il y en avait moins, ils mouraient encore en grand nombre. Mais ils ont été blâmés parce que leur propension à l'obtenir et à en mourir était bien moindre, parce qu'ils suivaient les lois de Dieu qu'il avait établies des milliers et des milliers d'années auparavant. D'accord. C'est de l'assainissement. Nous avons examiné la quarantaine, un peu de santé, l'assainissement. En voici un que nous connaissons tous bien. Dieu a un ensemble de lois alimentaires, et nous les prenons pour acquis. Nous n'y pensons pas. Nous ne mangeons pas de viande impure, donc bien sûr que non. C'est ce que Dieu dit, donc nous ne mangeons pas de viande impure. Nous savons certaines choses. La plupart d'entre nous connaissent le porc et le porc, la trichinose et certaines des choses qui peuvent en découler. Mais chaque élément de la liste, où Dieu dit que vous ne pouvez pas manger, a une raison spécifique. Nous ne regarderons pas tous les détails. Vous pouvez le faire vous-même, mais tournez-vous vers Lévitique 11. Nous lirons une partie de ce chapitre. Juste une coïncidence, où Dieu a-t-il inspiré le livre qui repose sur vos genoux? Nous commencerons par le premier verset. Chapitre 11 et verset 1, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron. Parle aux enfants d'Israël, en disant, « Ce sont les bêtes que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Tout ce qui sépare le sabot, a les pieds fourchus, et mâche le gourdin, parmi les bêtes, que vous mangerez. Vache et mouton et chèvre. Néanmoins ceci ne mangeras-tu pas de ceux qui mordillant. Mais ne divise pas le sabot. Donc, vous donnant le contraire, donc quelle que soit la partie. Prenez-le ici, dans le verset 4 ici, néanmoins ceci ne mangerez-vous pas de ceux qui mordillant, ou de ceux qui divisent le sabot, comme le chameau. Alors Dieu dit qu'il y en a qui semblent bien, mais j'appelle spécifiquement le chameau, ne mangez pas le chameau. Parce qu'il mâche le gourdin, mais ne divise pas le sabot, il est impur pour vous. D'accord, entrons dans leurs détails. Regardez ces sabots. Que font-ils de la nourriture? Comment vont-ils? Sont-ils en train de le manger? Et le Kohani, qui, mâche la queue, mais ne divise pas le sabot, il est impur pour vous. Le lièvre, parce qu'il mâche le gourdin, mais ne divise pas le sabot, il vous est impur. Et le porc, parce qu'il, partage le sabot et qu'il a les pieds fourchus, mais il ne mâche pas le gourdin, il est impur pour vous. Donc, différentes variantes à ce sujet. Très spécifiques sur les animaux qui semblent très, très similaires. Eh bien, nous connaissons le porc, et en fait, la plupart des viandes que Dieu définit comme « vous ne pouvez pas manger » ont le même problème avec les parasites. Le porc est particulièrement mauvais. À tel point que la FDA reconnaît que le porc est mauvais pour vous, et vous ne pouvez pas aller dans un restaurant et dire « je voudrais une côtelette de porc moyennement saignante ». Ils ne réussiront pas parce que cela peut vous rendre malade. Personne ne fait le lien entre les points et dit « peut-être que je ne devrais pas non plus avoir une côtelette de porc bien cuite ». Mais ils les cuisinent toujours bien cuits, car c'est la seule façon de tuer le parasite. Vous ne trouverez jamais de carpaccio de porc. Mais vous pouvez le faire avec du bœuf. Bon, nous continuerons ici, verset 8, « Tu ne mangeras pas de leur chair, et tu ne toucheras pas leurs cadavres, ils sont impurs pour vous. » Souvenez-vous du contexte des choses que vous pouvez. Et puis, changeant de sujet, vous mangerez ceci de tout ce qui est dans les eaux, d'accord, alors maintenant nous sommes passés aux eaux. Tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières, vous en mangerez. Il y a beaucoup de choses dans l'océan, mais très peu de choses qui ont des nageoires et des écailles. Et tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles dans les mers et dans les fleuves, de tout ce qui se déplace dans les eaux, et de tout ce qui est vivant dans les eaux, ils seront une abomination pour vous. Alors Dieu vient de rétrécir ce que vous pouvez retirer de l'océan à un groupe très spécifique de poissons. Ce n'est que, vous savez, la seule chose que vous allez avoir dans l'océan avec des nageoires et des écailles, ce sont des poissons, et il y a beaucoup de poissons qui n'ont pas d'écailles. C'est donc une partie très étroite de ce qui se trouve dans l'océan. Si vous êtes déjà allé dans une rivière, et que vous avez ramassé des choses, et que vous avez des écrevisses, des vers, des têtards et des salamandres, Toutes sortes de choses que vous pensez pouvoir manger, c'est de la nourriture. Mais Dieu dit spécifiquement, non, ne mangez pas toutes ces choses, parce que... Une autre chose intéressante qu'il a faite. Ces articles qui ont tendance à ramper dans l'océan, ou qui ont la peau douce, font l'une des deux choses. Ce sont des prédateurs, donc ils mangent la chair d'un autre animal dans l'océan, souvent, les choses qui rampent le long du fond, qui ne sont pas bonnes pour vous, ou, ce sont des mangeoires de fond. Alors vous pensez à tous les poissons. Poisson chat, il y en a un auquel vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Ils peuvent devenir gros et ils aspirent simplement les déchets au fond de l'eau. Nous en avons dans le lac, car ils sont bons pour passer l'aspirateur. C'est ce qu'ils font. Ils nettoient. Si jamais vous avez un aquarium, vous voyez ce petit poisson chat miniature que vous avez toujours dans l'aquarium qui est toujours coincé sur le côté du verre. Il le nettoie. Parce que c'est ce qu'il... C'est pourquoi Dieu dit de ne pas manger l'aspirateur, car il ramasse toutes sortes de déchets. Donc, ils consomment des déchets, et que font-ils aussi? Ils ont tendance à être porteurs de maladies parce qu'ils ne font que manger tous les déchets et les bactéries du fond. Et ils sont conçus pour être capables de gérer de nombreuses maladies. C'est comme des porcs. Ils peuvent simplement aller manger et manger des serpents venimeux, il suffit de les écraser comme personne ne l'a fait, et cela ne les affecte pas, car ils sont conçus pour aspirer les ordures. Encore une fois, comment la Bible existait-elle à une époque où cela était écrit? Parce que la plupart de ceux-ci, en particulier avec de la nourriture, vous pouvez manger ces choses et ne tomberez pas immédiatement malade. C'est ce qui inspire les lois sur la santé. Donc aucun de ces articles, parce que vous obtenez des gens qui sont tout simplement sauvages à cause du bacon. Ils ont juste du bacon, du bacon, du bacon. Il y a des restaurants dédiés au porc et au bacon, et ils ne le font pas, ils restent en affaires parce que les gens ne tombent pas morts lorsqu'ils sortent des restaurants. Vous mourrez avec le temps. Et toutes ces autres choses, le homard et le poisson chat, et vous connaissez la liste des choses impures que nous continuerons à chercher ici, elles ne vous tuent pas instantanément. Donc, à moins que cela ne soit inspiré de Dieu, comment auraient-ils su qu'ils ne sont pas en bonne santé, sans la science moderne que nous avons aujourd'hui, pour être en mesure de montrer pourquoi Dieu a choisi ces choses spécifiques? Comme si nous détruisions la terre maintenant parce que nous introduisons des choses comme le mercure et qu'il entre dans les poissons et les choses qui sont propres, mais c'est notre faute. Ce n'est pas ainsi qu'ils ont été conçus. Mais, vous allez mesurer le mercure chez les animaux qui ne sont pas propres, vous constaterez qu'ils ont des niveaux plus élevés, surtout les prédateurs. Parce qu'ils ne sont pas conçus pour libérer des toxines de la même manière que les poissons propres sont conçus pour le faire. Parce que c'est ainsi que Dieu les a créés. Donc, s'ils mangent les plus petits, vous n'obtenez pas l'accumulation. C'est de là que vient l'empoisonnement au mercure. D'accord, ce sont les nageoires et les écailles. Verset 13 du même chapitre, chapitre 11, et ce sont eux qui ont une abomination parmi les oiseaux, ils ne seront pas mangés, ils sont une abomination, l'aigle et le balbuzard pêcheur, et divers oiseaux, vautours, cerfs-volants. Ce sont tous des oiseaux prédateurs, des oiseaux de proie. Le corbeau, selon son espèce. Le hibou, la nuit le faucon, le petit hibou, c'est donc le gros hibou et le petit hibou, ne mangez aucun d'eux, le cormoran, le grand hibou, le cygne, le pélican, un autre aigle, la cigogne, le héron, le vanneau et la chauve-souris. C'est un drôle du milieu de nulle part. D'accord, tous les autres sont vraiment de jolis oiseaux, la plupart du moins, alors je peux penser que je vais peut-être vouloir manger un de ces oiseaux attrayants. Et puis la chauve-souris, et vous pensez, d'accord, est-ce que n'importe qui l'ironie est que les chauves-souris sont consommées partout dans le monde? Ils sont considérés comme un mets délicat dans de très nombreuses cultures et de mauvaises choses arrivent. Pensez à Covid. Et beaucoup de maladies peuvent être attribuées aux chauves-souris, parce que les chauves-souris ont des choses amusantes à leur sujet, elles absorbent des parasites, des maladies et des virus, et peuvent en transporter des qui ont une empreinte de pouce similaire, si vous voulez, à celle que les humains peuvent porter. Les chauves-souris sont donc très douées pour transmettre des virus, qui n'entrent pas dans les gens. C'est beaucoup plus facile à faire lorsque vous êtes assis et que vous mangez la chauve-souris. Donc vous pensez que personne ne le fait, mais c'est super commun et c'est considéré comme un mets délicat. Ensuite, il y a un peu, vous pouvez argumenter, dans certains cas, que Covid est. Ils l'ont lié à quelques autres choses, mais au moins Covid-19, le plus moderne, mais il y a beaucoup de preuves montrant des chauves-souris et beaucoup de Covid, pas le l'autre moderne, proviennent de chauves-souris et de nombreuses autres maladies aussi. C'est pourquoi on nous dit de ne pas les manger. Et les oiseaux de proie, ils ne font pas la distinction entre les vivants et les morts. Ils mangeront n'importe quoi. Alors ils mangeront de la nourriture morte, des carcasses mortes. Rappelez-vous ce que Dieu a dit au sujet des carcasses mortes, que porte-t-il ? Mais les oiseaux sont conçus pour pouvoir le gérer. Mais si nous mangeons les oiseaux qui mangent les carcasses qui ont les parasites, qui ne les dérangent pas, ils vont nous déranger et nous rendre malades. Mais pas toujours immédiatement, alors comment dans le monde ont-ils su écrire cela à moins que Dieu n'inspire ses paroles ? Parce que, encore une fois, rappelez-vous que nous parlons de milliers d'années, ils étaient enthousiasmés par les chaussures. Des chaussures. Il restait encore un millier d'années environ après l'invention de la porcelaine avant que les gens commencent vraiment à la voir. C'était en Chine. Il s'est caché. Le fer était un gros problème. Et pourtant, la Bible parle clairement de parasites et de bactéries que nous ne comprendrions pas avant l'ère moderne. D'accord, verset 20, même chapitre, tous les oiseaux qui rampent, allant sur les quatre, seront une abomination pour vous. Pourtant, ceux-ci peuvent vous manger de chaque chose rampante volante qui va sur les quatre, qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds, pour sauter avec sur la terre, vous en mangerez même cela, le criquet après son espèce, et le criquet chauve après son espèce. Le scarabée après son espèce, et la sauterelle après son espèce. Faites-le à vos risques et périls. Ils sont propres, mais j'ai entendu dire que si vous les recouvrez de chocolat, ils sont bons. Mais j'ai entendu dire que vous recouvrez n'importe quoi avec du chocolat, et c'est bon. Alors, la sauterelle après son espèce. Et puis, sautez au verset 29. Ceux-ci seront aussi impurs pour vous parmi les choses rampantes qui rampent sur la terre, la belette, la souris et la tortue selon son espèce. Pensez aux rats et à toutes les maladies qu'ils ont propagées, mais personne n'en aurait la moindre idée, car si les taux étaient propres. C'est une pensée dégoûtante à cause de notre époque moderne, et nous savons ce qui ne va pas avec eux. Pensez à la façon dont les souris se reproduisent et comment les rats se reproduisent. Nous élevions des rats partout. Mais ils sont porteurs de maladies et donc Dieu dit, avant, il était même possible de comprendre, ne pas manger les souris, et le furet, et le caméléon, et le lézard, et l'escargot, et la taupe. Ceux-ci sont impurs pour vous parmi tous ceux qui rampent, quiconque les touchera, quand ils seront morts, sera impur jusqu'au soir. Donc encore une fois, il est mort, faites attention. Alors pourquoi toutes ces choses en plus sont un peu dégoûtantes? C'est en fait plus de science. Taux de contamination de 90% par la salmonelle si vous mangez des lézards, des salamandres ou d'autres amphibiens. Vous aurez donc une intoxication à la salmonelle si vous mangez des amphibiens, des lézards, des salamandres. Ce n'est qu'un problème. Il existe une multitude de maladies et de maladies que vous pouvez contracter si vous mangez des reptiles ou des rongeurs. Et vous pensez, bien sûr, personne ne va les manger. Mais ils l'ont fait. Les gens mangeaient tout ce qui bougeait. C'était de la nourriture. C'était des protéines. C'est ce qu'ils ont recherché. Si le concept d'agriculture, rappelez-vous, commençait à peine à s'imposer en Europe, ce n'était même pas quelque chose qui se faisait massivement en Amérique latine. Ils avaient des fermes, mais pas à l'échelle. Ils mangeaient donc tout ce qu'ils pouvaient mettre la main, partout dans le monde. Donc, pour que Dieu vous inspire de ne pas manger certaines choses, c'était une idée radicale et complètement hors de la norme. Taux de contamination de 90% pour les salmonelles. Exode 22. Quelques petits, plus d'avertissements ici. Exode 22, verset 31. J'aurais probablement dû vous envoyer au Lévitique, mais nous ferons celui-ci et ensuite retournerons au Lévitique. Verset 31 du chapitre 22. Verset 31. Et vous serez des hommes saints pour moi, vous ne mangerez pas non plus de chair déchirée par les bêtes dans les champs ainsi, les animaux purs qui sont tués dans les champs, vous la jetterez aux chiens. Vous n'essayez même pas de manger cela même s'il est propre, car il est mort et contient des micro-organismes qui pourraient vous rendre malade. Lévitique 22, 8, et nous y retournerons. Chapitre 22, regardant juste le même point. Chapitre 22 et verset 8. Le verset lui dit, « Ce qui meurt de lui-même, ou est déchiré par des bêtes donc, si vous avez un animal qui, Disons que vous aviez un troupeau, des moutons ou des chèvres à l'époque, et que vous avez fait tomber une chèvre et mourir, Dieu dit de s'en débarrasser. Ou si elle est déchirée par des bêtes, nous avons vu dans Exode 22. Il ne mangera pas pour se souiller avec elle, je suis l'Éternel. C'est un commandement de Dieu, parce que savez-vous si cette bête est tombée et a frappé sa tête, et est morte, ou cette bête était-elle pleine de maladie, et est-elle simplement morte à ce moment-là? Vous ne pouviez pas le dire, car personne n'avait aucune idée des micro-organismes. Le concept n'existait pas. Donc Dieu n'est pas entré dans, eh bien, il y a ces minuscules, petites bactéries qui sont à l'intérieur de ces choses que vous devez comprendre. Alors, non, non, bien sûr que non. Il a juste dit de ne pas le manger s'il est mort. Pouvons-nous, aujourd'hui, apprendre cela? Parce que si quelque chose est mort et que vous le trouvez, vous pouvez couper les parties mortes, et apprendre et cuisiner. Nous avons une époque moderne, nous pouvons comprendre cela. Personne n'avait de microscope, à l'époque, pour regarder la viande et voir si elle était en décomposition, ou si elle ne l'était pas. Alors Dieu a dit, je vais reculer un peu. Je vais dessiner les paramètres autour, la clôture autour de ce que vous ne devriez pas faire un peu plus large pour éviter de contracter la maladie. Souvenez-vous, pandémie bubonique, ils pensaient que c'était le mauvais air qui les rendait malades, les mauvais esprits. Et c'était 2500 ans après que Dieu a inspiré ceci à écrire. 2500 ans. Car, aujourd'hui, on comprend une carcasse mourante, elle est pleine de maladies. Nous le savons. C'est quelque chose que nous comprenons. Nous le prenons pour acquis. C'est une connaissance qui nous est automatique. Nous devons donc nous débarrasser de notre partie primoderne, et nous rappeler, d'accord, ce n'était pas courant. C'était abstrait. C'était étrange, radical, totalement différent de ce qu'ils comprenaient. D'accord, c'est vraiment un bref aperçu de la nourriture. Les lois alimentaires, vous pouvez continuer, continuer et continuer. Creusez à travers Lévitique 11. Recherchez différentes créatures et vous pouvez trouver des informations sur chacun des éléments définis pour expliquer pourquoi nous avons appris à l'ère moderne pourquoi vous ne devriez pas les manger. Dieu est très précis sur ce qu'il nous permet de faire et de ne pas faire. D'accord, celui-ci le dernier ici, du sang. Du sang. D'accord, qu'est-ce que cela a à voir avec des découvertes étonnantes? Allez à Lévitique 17. Encore une fois, un autre de ces objets que nous venons de connaître à l'ère moderne. Cela fait simplement partie de nos connaissances de base. Nous ne pensons pas que ce soit vraiment unique. Chapitre 17 et verset 10. Le verset 10 dit, « Et tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent parmi vous, qui mange quelque sang que ce soit, mange n'importe quelle sorte de sang, je mettrai même mon visage contre cet homme qui mange du sang, et, je, le retrancherai du milieu de son peuple. » Pensez, le contexte de cette époque était une grande consommation de sang. Culture ritualiste, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tué et ils ont sacrifié, ils ont bu du sang. C'était normal. Dire ne pas boire de sang, était la position radicale, différente, complètement unique. Mais Dieu a dit, « Je vais vous interrompre, si vous buvez du sang. Car la vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, aucune âme d'entre vous ne mangera de sang. En dehors de la nation d'Israël, tout le monde l'a fait. Aucun étranger qui séjourne parmi vous ne mangera de sang. Tout homme qu'il y ait des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent parmi vous, qui chasse et attrape toute bête ou volaille qui peut être mangée, il en versera même le sang, donc égouttez-le correctement avant de manger, et couvrez-le de poussière. Donc, il ne laisse même pas le sang exposé, car, comme pour tout autre élément en décomposition, il va se décomposer et contenir des bactéries. Car c'est la vie de, la, chair, son sang est pour sa vie, Dieu dit, la vie est dans le sang. Saviez-vous que, jusqu'au XIXe siècle, nous pensions être tombés malades? Au XIXe siècle, donc il y a 200 ans, nous pensions que nous étions tombés malades parce que de mauvaises vapeurs pénétraient dans notre sang. Nous ne savions pas quoi ni pourquoi, ni comment les particules voyageaient, alors c'était juste une sorte de mauvaise vapeur. Ils auraient supposé que ce fût une sorte de fumée ou quelque chose dans l'air, parce que sinon, ils ne comprenaient pas vraiment le vent des courants ou qu'il y avait des particules dans l'air qui flottent dans l'air, s'ils ne pouvaient pas les voir. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir les choses au microscope. C'est donc essentiellement une mauvaise fumée qui s'est infiltrée dans votre sang et qui vous a rendu malade. Alors, comment pouvez-vous vous améliorer? Vous évacuez la mauvaise fumée. Alors éliminez les vapeurs de votre sang. Alors, comment évacuez-vous les mauvaises vapeurs de votre sang? Vous mettez une sangsue sur votre corps et la laissez aspirer le sang. Et les gens se demandent pourquoi nous remettons en question la médecine. Sangsue, extrêmement commune, ou si vous étiez vraiment malade, coupez le poignet et saignez pour laisser le mauvais sang, les vapeurs, s'échapper du système. Et puis les gens sont morts parce qu'ils avaient saigné et qu'ils ne pouvaient tout simplement pas évacuer suffisamment de vapeurs. Et ils n'ont jamais connecté le point qu'ils ont simplement laissé la personne saigner à mort. Nous savons maintenant que le sang donne la vie. C'est notre nourriture. Sans sang circulant dans notre système, nous mourrons. Sans qu'il ait l'oxygène. Ce sont les deux systèmes qui sont si cruciaux. Que font-ils si vous êtes blessé ou blessé, ils s'assurent que votre sang pompe, et que vos poumons respirent. Si votre cœur ne pompe pas, et que vos poumons ne respirent pas, prenez de l'oxygène, vous êtes mort. Vous ne pouvez rien faire pour ramener cette personne. Tu es mort. Parce que la vie, les nutriments, y compris ceux qui proviennent de l'oxygène, sont dans le sang. Il va à chaque partie de votre corps. Les nutriments pour vos muscles, vos articulations, vos os, partout, sont distribués dans votre corps pour vous garder en vie, dans votre sang. Comment aurait-il même su que le sang traverse tout votre corps alors? Dans vos os, partout où cela lui permet d'obtenir tous ses nutriments dans tout votre corps. C'était si courant et aussi avant-gardiste. Vraiment, sans jeu de mots destiné à la fine pointe, là. Que George Washington a attrapé un rhume. Ils comprennent maintenant, en regardant en arrière, que c'était un rhume. Alors il est devenu particulièrement malade, et des médecins sont entrés et ont vidé 40% de son sang, et cela l'a tué. C'est ainsi que nous sommes, ou étions, et sommes encore de bien des façons, nous en arrivons à comprendre, de ce que Dieu a inspiré. Le premier président des États-Unis est donc mort parce que nous pensions qu'il y avait de la mauvaise vapeur dans notre sang. Et le sang peut aussi être rempli de maladies. Il peut être porteur de maladies. Il peut l'encapsuler et aider à le sortir de votre système également. Ce qui est intéressant. C'est une autre raison pour laquelle vous couvrez ce sang de poussière pour éviter que cela ne se produise. Considérez cela. Frères et sœurs, comme l'univers, la Bible ne peut se tromper sur aucun fait médical, ou ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'est pas nécessaire qu'il contienne tous les faits médicaux. Ce n'est pas le livre de toutes les connaissances, mais toute connaissance qu'il contient doit être exacte. Et non seulement il en est ainsi dans tout ce que nous avons vu, et il y en a d'autres que je n'aurais pas eu le temps de couvrir, mais des milliers d'années avant que l'humanité ne puisse même commencer à le comprendre, plusieurs milliers d'années. Alors, quel est le but de deux sermons comme celui-ci? Intéressant. C'est étonnant. C'est chouette. La Bible est impressionnante. Vous pouvez, cette information est là. Professer le christianisme comprend plusieurs de ces choses, mais elles n'ont pas le lien avec notre Créateur que vous et moi faisons l'expérience. Ils ne comprennent pas toutes les autres vérités de la Bible que vous et moi avons. Ces faits, ces preuves de la science devraient renforcer notre foi sur tout ce que nous comprenons. Donc, s'il y a une question dans votre vie, où vous pensez, « Oh, je lutte avec ceci, cela ou l'autre », votre foi vacille. Le Dieu qui a mis toutes ces choses dans la Bible, de l'univers aux organismes microscopiques, à la charge de votre vie, guidant votre vie, dirigeant votre vie. Ne laissez jamais cela s'échapper de votre esprit. Nous avons examiné de grandes choses avant et de petites choses aujourd'hui. La Bible confirme la science et la science confirme la Bible, mais c'est simplement intéressant. Cela devrait nous solidifier, nous et notre Créateur, pour nous souvenir que nous voyons de grands miracles aujourd'hui. Le Dieu qui a inspiré, il y a 3000 ans, a enregistré des choses impossibles à comprendre, l'a-t-il fait sans raison? Pensez-y. L'a-t-il fait sans raison? Il voulait simplement mettre cela dans sa parole. Où est-ce que Dieu, qui se tient en dehors de l'espace et du temps, a dit qu'il y aura un moment où j'ai des serviteurs, à la fin des temps, qui ont un monde qui est difficile, le monde qui tire sur eux, qu'ils doivent lutter et combattre. Donc je vais mettre, dans ma parole, il y a des milliers d'années, quelque chose qu'ils ne pourront comprendre que de leur vivant. Frères et sœurs, c'est le Dieu que nous servons. Ainsi, quand nous pensons qu'il ne guide pas nos vies, ou que nous sommes dans une épreuve, Quelles que soient les circonstances, chaque fois que notre foi vacille, rappelez-vous que Dieu peut inspirer des choses des milliers d'années avant qu'elle ne puisse comprendre et puisse diriger nos vies dans la direction où il doit aller pour faire partie de la famille de Dieu. Ne l'oublie jamais. Nous servons le Dieu de l'univers, et que Dieu veille, dirige, guide et nous aidera à atteindre le royaume de Dieu. Ne l'oubliez pas et ne le perdez jamais.